Bonjour Ritipan, merci beaucoup de nous accorder cet entretien sur Rendez-vous avec Pol Pot. On est très content de vous avoir parce que dans l'émission Extraordinaire, on a beaucoup parlé de vos précédents longs métrages, mais surtout documentaires. Vous me disiez en off que vous ne faisiez pas forcément complètement la différence, en tout cas dans la démarche entre les documentaires et les fictions. Celui-ci est présenté comme une fiction, mais on y reviendra, il y a un mélange de régimes d'images. Donc la question que je vais vous poser, c'est quoi le tout départ dessus ? Est-ce que c'est la lecture du témoignage de cette journaliste du Washington Post où vous avez cherché un point de départ, plus peut-être des images d'archives, et faute d'images d'archives, vous en êtes venu à ce parti pris de fiction ?
Non, c'était un projet de film de fiction qui... J'ai cette idée-là en tête depuis quelques temps déjà. Parce que avant, j'ai déjà travaillé sur le même livre, du même autrice, Elisabeth Becker, sur un portrait d'une jeune femme qui est au Pana, qui était exécuté au centre S21. Et voilà, on portait ensemble le même regard sur une même personne. Donc, du coup, j'ai appelé, j'ai demandé la permission de travailler sur le sujet. Et puis, on est restés amis. Et puis, bon, dans le livre, When the War Was Over, il y avait déjà le chapitre 11 qui m'intéressait aussi, donc ça inspire l'idée de Rendez-vous avec Pol Pot. Voilà, c'est un certain moment, ça a mûri dans ma tête petit à petit, et que je trouve que c'est le moment. Parfois on a une idée, mais c'est pas le moment de faire le film, c'est pas encore... On ne peut pas tout réunir autour du film, soit les acteurs, soit le scénario pas encore bon, soit le budget. Il y a multiples raisons pour que le film ne se fait pas immédiatement. Mais il faut persister, il faut retravailler. Et puis finalement, voilà, c'est un bon moment et on l'a fait.
Et oui, on l'a fait, et c'est à Cannes, ouais. C'est à Cannes première. Je parlais donc au tout début de cette question à la fois de la fiction, mais en même temps, il y a différents régimes d'images, puisqu'il y a des images d'archives dans le film. Il y a des photographies que j'imagine étant des photographies réelles. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on refuse à ces journalistes de voir la réalité du pays, et que comme eux sont effectivement dans une bulle, comme dit le personnage d'Irène Jacob à un moment, c'est la manière que vous avez trouvé de quand même faire exister cette réalité, c'est de la figurer par des images d'archives, mais qui sont toujours voilà, projetées sur des murs ou sur des voilages, etc. Et je voulais un peu parler avec vous de ce parti pris de mélanger. On a aussi de nouveau des images de figures comme dans l'image manquante, et en même temps la fin du film, c'est un entretien qui n'est ni enregistré ni filmé ni raconté, puisque le personnage n'aura pas l'occasion de le raconter. Donc on termine dans j'imagine, de la fiction pure. Donc voilà, je voulais savoir un peu votre quelle était en fait la recherche autour de ce parti pris de mélange de ces différents régimes.
En fait, c'est très difficile de faire un film de reconstitution, ouais. Parce que il y a certaines choses qu'on peut reconstruire, d'autres, personnellement, je n'arrive pas ni reconstruire, ni faire la mise en scène.
Ouais.
Par exemple, une scène qui comporte d'extrême violence, par exemple. J'arrive pas très bien comment on peut filmer. Je cherche de savoir comment... quelle est la bonne distance, quel est le point de vue, enfin, je questionne beaucoup sur la faisabilité de chaque image. Et puis, voilà, à partir de ce moment-là, il faut préserver la liberté de travailler, quoi, comme faut pas être, comment dire, c'est difficile à expliquer, parce que c'est le film, il y a un scénario, il y a tout ça, il y a des dialogues, descriptions, ça. Puis après, il faut aller au-delà, s'affranchir de cet scénario et aller au-delà, et puis continuer à créer, faire les choses, trouver une forme, un langage, mettre les gens dans la bonne distance. par rapport, je crois que les figurines, c'est une bonne distance pour moi, ouais. D'être à la fois, apprendre l'histoire, être dedans et sans être complètement trop heurté par la violence des choses, violence, c'est violent parfois un peu, c'est très difficile, hein. C'est, on peut basculer dans l'exhibitionnisme très vite, hein. Donc, il faut doser, là, montrer un peu. En même temps, si vous ne montrez pas, les jeunes ne croient pas. Parce que maintenant, les gens croient, surtout les jeunes, croient que s'ils voient. C'est la culture de l'image qui ne vient pas des réseaux sociaux, tout ça, quoi. Et de plus en plus, je crois que les gens ne croient que s'il y a l'image, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer, qu'est-ce qui est filmé, il ne faut pas filmer. Même dans notre vie quotidienne maintenant, parfois, quand il y a quelqu'un qui se fait agresser, les gens filment.
Oui.
Au lieu d'aider,
ouais.
De venir intervenir, d'aider, de se les séparer, ils filment. Ils filment ou ils se marrent ou tout ça. On peut discuter là-dessus, mais après, pour moi, c'est... qu'est-ce que je peux montrer et qu'est-ce que je ne peux pas. Tout est montrable. Hein, tout est montrable. Mais comment et comment faire, hein.
Mais ce qui est intéressant dans cette question, justement, de ce qu'on peut montrer et pas montrer, c'est que voilà, vous dites, par exemple, les gens vont filmer une agression au lieu de l'arrêter. Et en même temps, c'est ce qui laisse un témoignage de cette agression. Et là où je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on voit bien que ces personnages de journalistes, ils sont justement à la recherche de ce qu'on leur refuse de voir. Ils sont à la recherche du hors-champ, quelque part, et de savoir, effectivement... Alors, la violence est énormément hors-champ, mais eux la recherchent, notamment un des journalistes, celui qui est le photoreporter, qui, lui, va au-devant, justement, de cette violence, etc. Et les trois personnages, j'ai l'impression, ont été construits autour de cette idée-là de trois types de journalistes. On a celui, effectivement, qui, quelque part, est habité par cette idéologie et veut se confronter à cette idéologie... concrète et ce qu'on fait aujourd'hui Pol Pot. On a ce journaliste justement qui a vraiment envie de pouvoir témoigner, de ramener des images. Et puis on a le personnage d'Irène Jacob qui, j'ai l'impression, est dans un espèce d'entre-deux, puisqu'en fait elle a aussi une démarche personnelle de retrouver quelqu'un qu'elle connaît. Est-ce que du coup vous avez construit ces trois personnages par rapport à cette idée-là de comment on se place, quel est le point de vue qu'on adopte sur cette réalité?
Tout d'abord, je ne suis pas sûr qu'en filmant la violence, vous ferez un témoignage.
Ah non, je ne suis pas forcément.
Ou filmer à la violence, vous ferez amoindrir la violence, quoi. C'est très compliqué, c'est très, très compliqué. Chacun fait le film selon son vécu aussi, hein, selon ce qu'il a. Si les gens ont la chance de faire vraiment les choses qui n'ont rien à voir avec leur vécu, ils sont vraiment des vrais. Vraiment des gens extra, quoi. Mais moi, j'ai mon histoire et que j'ai un peu de vécu maintenant. Et que quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, parfois, j'entends comme un écho qui vient de mon passé, sur que, voilà, on dirait que ça se répète. D'ailleurs, les gens disent que l'histoire se répète tout le temps. Mais en même temps, on ne fait rien pour l'empêcher de se répéter. Quand je sens que ça revient, ou il y a un ressemblant, ou il y a une espèce d'écho, j'essaie de pencher dessus, quoi. Donc, voilà, dans le film, voilà, il y a... au-delà du problème d'histoire des Khmer Rouges, qui fait partie de mon histoire, c'est le film pose des questions sur l'information, sur le travail de journalisme, sur l'idéologie, sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est visible et pas visible, sur la manipulation.
Et c'est ce qui en fait un film très contemporain.
Oui, c'est très actuel, c'est un sujet très actuel. La pureté d'idéologie pour moi, tout ce qui est pur est un peu dangereux. Pas un peu, c'est dangereux.
Non, en l'occurrence, et oui.
On est dedans. Ouais. On est dans cette radicalisation, cette façon de recherche de pureté des origines. Et qu'est-ce qui est pur ? Je ne sais pas ce qui est vraiment pur.
Mais c'est ce que je trouve très intéressant, en fait, on ne va pas... spoiler pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore vu le film, mais c'est ce que je trouve très intéressant justement dans cet entretien final. Et d'ailleurs, c'est un parti pris que vous avez pris, c'est de faire de ces trois reporters des Français, alors qu'ils sont basés sur des personnages américains. Or, le Pol Pot est quelqu'un qui parle français, qui connaît bien cette culture-là, etc., et qui a priori a appris. Alors, je suis pas du tout une experte sur le sujet, mais j'imagine a appris aussi cette idéologie-là en allant en Europe à un moment donné, etc. Et à la fin, on a la confrontation entre donc ce journaliste, cette idéologie, et puis voilà sa confrontation au réel. Et j'ai eu l'impression dans ce dialogue final qu'effectivement il y avait quelque chose de très tourné vers l'avenir, peut-être même vers la jeunesse actuelle, sur cette question de quelque part, est-ce qu'on a encore le droit de rêver, et est-ce que un monde parfait est possible. Et du coup, je voulais vous entendre là-dessus, sur est-ce qu'en tout cas c'était une volonté de vraiment ouvrir le film à la fin sur quelque chose de vraiment d'ultra contemporanéité.
Oui, je n'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Et si ça tombe bien, c'est parce que peut-être je le sentais d'une manière ou d'une autre. Donc on est tous en être politique quelque part. On ne fait pas là, n'est pas politique au fond. C'est toujours un engagement quelque part. Et c'est comme si, par rapport à mon expérience, j'ai essayé de tendre un miroir pour qu'on puisse regarder nous-mêmes. Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Et moi, je suis très perturbé par par le fait dont on nous oblige toujours, nous sommes même, de choisir un camp immédiatement, maintenant, selon notre... C'est à l'instantané, tout est dans l'instant même. Et on ne prend plus le temps d'expliquer, on ne prend plus le temps de comprendre, on ne nous donne plus le temps de comprendre, et tout doit être immédiat. Et parfois, avec beaucoup d'émotion, on joue de l'émotion, on joue beaucoup là-dessus. Et avec la technologie d'aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tout part comme ça, balancé.
C'est de l'actualité chaude et plus effectivement.
C'est pas. Oui, je sais même pas si l'actualité est chaude ou froide. C'est juste un non-sens, quoi, parce que ça va trop vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'agir. Vous voyez, après on passe autre chose. Enfin, on passe autre chose. On vit au rythme de post, repost, like, et tout ça, quoi. Et donc, c'est un outil formidable, hein, l'information ou la technologie maintenant. Si vous utilisez vraiment, moi j'adore, hein, vous allez rien que le ChatGPT, si vous voulez savoir quelque chose, il vous donne une vitesse incroyable.
Il fait encore des erreurs, ceci dit.
Ils font des erreurs, mais ils vont de plus en plus. Plus vous l'utilisez, plus il devient intelligent.
Apprend, ouais.
Donc, ça dépend comment on l'utilise. Voilà, c'est de comment on le laisse nous gouverner, et comme vous utilisez X ou Instagram ou quoi que ce soit. Mais on vit un rythme, ça, et on réfléchit plus, puis on radicalise ses positions. Donc, si le matin, la première chose que pas mal de gens y vont, c'est le tweet. Pour voir les actualités. En fait, il lit que le titre. Il ne lit pas l'article. Il lit le titre. Et puis, il scrolle comme ça, puis il passe à autre chose. Et très peu de gens lisent les livres, ou lisent les titres, ou le journal, vraiment, un article, le journal. Ouais. Avant, ce n'était pas aussi accessible, mais on achète son journal, puis le temps de faire quelques stations de bus ou stations de métro, on a déjà lu quelques articles. En plus, moi, quand j'étais étudiant, je lisais beaucoup de journaux. Ben, ça me fait passer le temps, quoi, de mon trajet. Et j'adore lire les journaux dans le bus, quoi. Et maintenant, je vois plein de gens qui font ça, tac, 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 dans la main, avec leur téléphone. En fait, ils ne lisent pas. Ils pontent tellement vite. Et c'est cette vitesse qui participe presque à notre effacement, l'effacement de la réflexion, de la pensée. Et du coup, on fait des erreurs. On se radicalise. On choisit tout de suite des choses, lire sans se connaître. On s'adresse au monde. Vous postez un truc, vous parlez comme si vous parlez au monde, quoi. Mais je sais pas même pas qui c'est ce monde-là. Vous envoyez un message, c'est pas tout à tout le monde, voilà. Tout le monde, c'est qui tout le monde? Comme si je dis les gens, mais qui les gens, vous voyez? Les gens, tout le monde. Et du coup, voilà, le film, c'est question, voilà. Je pose quelques questions simples. Hein. Est-ce que c'est une manipulation? Qu'est-ce que c'est l'information? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la difficulté du travail d'investigation d'un journaliste, par exemple? Ne restons pas à la vitesse du fait. Ce qu'on voit là, c'est vrai ou pas vrai? Voilà, des choses très basiques. Hein, qui,
oui, parce qu'il y a beaucoup de choses mises en scène dans le film, effectivement, oui, par le régime.
Qui, à mon époque, étaient vraies et qui reviennent maintenant. Quoi, après, j'invente pas l'eau chaude, là.
Non, mais c'est peut-être la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est du coup de se dire que vous avez, à travers vos films, documenté une période dans laquelle, par moments, il manquait énormément d'archives pour voilà, de témoigner de ce qui s'était passé, et qu'aujourd'hui, au contraire, on est dans un flot ininterrompu d'images, mais comme vous disiez, on scrolle, on va très vite. Est-ce que finalement, cette presse, cette surinformation, ou en tout cas ce flot d'images, quelque part, vous avez l'impression, parvient à la même conclusion, c'est-à-dire l'effacement d'une forme de réalité? Est-ce que vous pensez que les deux se rejoignent un petit peu?
Certainement, si on ne fait pas attention, oui. Toutes les violences extrêmes sont souvent sans son ni image. Je ne parle pas des crimes de masse, même j'appelle la violence extrême comme le viol, par exemple. C'est sans image, sans son, quoi. Donc c'est très violent. Après, la réparation est longue, le traumatisme est lourd. Et parfois, voilà. Et trop aussi, ça devient quelque chose de. On oublie vite. Comme s'il n'y a pas de mémoire, comme s'il n'y a pas de... Comment vivre sans mémoire, par exemple? Comment vivre sans souvenir, quel que soit, hein, le mauvais ou bon souvenir. Mais
c'est peut-être ce qui empêche l'histoire de se répéter aussi, quand même, la mémoire de ce qui s'est passé.
Le rôle de mémoire, c'est ça. C'est pour ça que je dis... Je fais un travail de mémoire et non pas un devoir de mémoire. Personne ne m'oblige, je le fais. Et comme vous l'avez justement remarqué, je fais pas mal de documentaires parce que c'est un travail. C'est un travail, c'est pas un coup. C'est pas juste faire un et repartir et je suis heureux, quoi. Le travail, c'est faut travailler jusqu'au bout, quoi. Tant que c'est nécessaire de faire, vous le faites. Quand le jour, j'espère que ce n'est plus nécessaire, donc ça veut dire que vous avez fait un travail pas fini, mais peut-être assez achevé pour qu'il vous permette de tourner vers autre chose.
Alors on attend un film sur peut-être le rapport au contemporain et au flot d'informations.
J'en ai fait, j'aurais bien aimé, bon, j'aimerais bien faire un film science-fiction ou comédie musicale, mais il faut que les gens me croient.
On a très envie de vous croire.
Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup,
merci
en tout cas,
Tiffane. Merci.